Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Aligre FM pour Fréquence Droit, le rendez-vous mensuel de la section des 10e et 11e arrondissements de la Ligue des Droits de l'Homme. Au sommaire ce mois-ci, une question: faut-il aujourd'hui sonner le tocsin pour nos libertés associatives? Sommes-nous en train de vivre, en ce milieu d'année 2026, un point de non-retour pour la démocratie de terrain en France? Dans le cadre de notre semaine spéciale, Fréquence Droit lance un véritable cri d'alarme depuis le vote de la loi dite séparatisme en 2021 et depuis la mise en place du contrat d'engagement républicain. Une question nous taraude: ce constat, ou plutôt ce contrat, n'est-il pas devenu une arme de censure et d'autocensure généralisée, une véritable disposition bâillon qui fait peser une menace sur l'ensemble du monde associatif? Le pire est d'ailleurs peut-être à venir: l'adoption par le Sénat le 16 mars dernier d'une première mouture d'une loi séparatisme bis contre l'entrisme ne risque-t-elle pas de créer un délit d'atteinte au principe de la République? Nous essaierons de répondre à cette question. Pour débattre de tous ces problèmes, eh bien, nous allons poser la question à nos trois invités. Marion Augier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate et membre de la Ligue des Droits de l'Homme. Romain Thor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de la rédaction du journal Politis, journal hebdomadaire, dont le modèle de presse est géré par une coopérative. Et puis Jean-Baptiste Jobard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur du collectif des associations citoyennes, le CAC.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Avant de discuter de tous ces points, eh bien, une question d'histoire: comment en est-on arrivé là, alors que la loi de 1901 se voulait un texte de pure liberté? Nous allons écouter à ce propos les paroles de celui qui est le père de la loi de 1901, Pierre Waldeck-Rousseau, qui, semble-t-il, la politique, les propos sont aux antipodes de nos politiques actuelles. Nous allons l'écouter lu par Boudjima Daman, à qui je dis bonjour et que je salue.
Bonjour Claude. Le texte de Waldeck-Rousseau est le suivant: le droit d'association est le prolongement naturel de la liberté, un droit primordial qui permet aux citoyens de s'unir librement. Il est le fondement même sur lequel repose la démocratie nouvelle. L'association ne doit plus dépendre du bon plaisir du pouvoir, ni subir l'arbitraire d'une autorisation préalable de l'administration. Elle est un contrat civil, un acte de confiance et de volonté qui fortifie le lien social. Par ce texte, nous garantissons l'autonomie des groupements face aux ingérences. C'est ainsi que l'initiative citoyenne devient le moteur de l'intérêt général.
Pierre Waldeck-Rousseau, discours prononcé dans les années et les mois qui ont précédé l'adoption par l'Assemblée nationale, la Chambre des députés à l'époque, disait-on, de cette loi sur les associations. Alexandre Jobard, quel était l'esprit du temps qui a présidé? Pardon, Jean-Baptiste Jobard.
Comme on enregistre, on peut...
On peut se tromper.
Jean-Baptiste Jobard, quel était l'esprit du temps? Nous sommes au début de l'installation de la République, c'est ça?
C'est ça, et en fait, c'est le moment où plusieurs piliers s'érigent pour construire donc cet édifice républicain. La loi de 1901 en est un, mais il y en a toute une série avant, et notamment, puisque Politis est là en 1881, évidemment, la loi sur la liberté de la presse, mais c'est la même année qu'on a aussi, évidemment, la liberté de réunion publique sans autorisation. Et il y a toute une série comme ça de reconnaissance légale. Et ce qui est très très important, c'est que tout ça est le produit quand même de luttes, et avant tout de luttes sociales qui s'inscrivent dans le mouvement ouvrier notamment. Et nous, c'est ce qu'on appelle l'associationnisme pionnier, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant de se rappeler que l'histoire des libertés associatives commence non pas en 1901, mais en 1791, avec la loi de Chapelier, et que cette histoire commence très mal, puisque ça commence par leur interdiction pure et simple. Et en fait, ce qui est très intéressant à noter, c'est à travers des écrits d'historiens comme Michel Rieu-Sarcé, évidemment Jacques Rancière, Jean-Louis Laville, etc., on s'aperçoit que, en fait, les associations sont illégales, mais de fait, se multiplient et sont, en fait, à ce moment-là, ce qui va permettre le creuset de toute une série d'inventions. Et d'abord d'inventions républicaines, parce que c'est aussi bon de se rappeler que avant 1901, il y a pendant un très court temps, à partir de février 1848, donc de la révolution de 1848 et de la Deuxième République, une première reconnaissance légale des associations, et c'est pas pour rien, c'est parce que la Deuxième République, c'est la sociale, et c'est la République qui finalement essaye de concrétiser les promesses inachevées de la Révolution de 1789 et de corriger un certain nombre d'aspects, parce que c'est paradoxal de voir qu'en 1789, on invente la citoyenneté en interdisant la citoyenneté collective. Il y avait là un biais, donc ça a été corrigé au fur et à mesure du temps par la loi de 1901, mais aussi 1884, la loi sur les syndicats, évidemment, 1896 sur les mutuelles, et toute une série en fait de reconnaissances légales de la capacité à s'organiser donnée aux citoyens.
Oui, c'est Pierre Baldec-Rousseau qui a été le père également, vous en avez parlé, je crois, de la libération des syndicats professionnels avec la mise à l'encan, si je puis dire, la suppression de la fameuse loi Le Chapelier, c'est ça ?
Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'associationnisme, c'est qu'il y a tout un moment au premier 19e siècle où on ne fait pas la distinction entre des propositions, des revendications associatives, syndicales, mutualistes, coopératives. Tout ça procède d'un même mouvement d'émancipation du peuple, même si ensuite il va y avoir une sorte de désagrégation et de dislocation à travers différentes familles qui constituent l'ESS aujourd'hui, mais qui sont quand même issues du même mouvement qui a été occulté pour des raisons historiques qu'on va peut-être pas développer maintenant, mais c'est pour ça que c'est intéressant de se souvenir de cette histoire, parce qu'elle est faite de combativité, puis surtout de tentatives de concrétiser une vision égalitariste et solidariste de la société.
Puisque nous faisons l'histoire de ce concept et de cette innovation, il faut parler peut-être également de la décision du Conseil constitutionnel de 1971, qui est importante.
Ouais, très important, méconnu aussi, mais en fait, c'est à ce moment-là. Alors, c'est important pour deux raisons. D'abord, en ce qui concerne les associations, parce que c'est ce qui va permettre en quelque sorte de sanctuariser, de protéger davantage la fameuse loi de 1901. À l'époque, ça procède d'un épisode où le Darmanin de l'époque s'appelle Marcellin, le ministère de l'Intérieur.
Raymond Marcellin.
Ouais,
oui,
Raymond Marcellin, célèbre, oui. Qui était surnommé Marcellin Tape-Dur, apparemment. Et qui, en fait, essaie de remettre en cause la loi de 1901. Et donc, le principe même qu'on peut s'associer sans avoir à demander l'autorisation, sans lever le petit doigt pour demander l'autorisation d'une autorité publique. Et à ce moment-là, le Conseil constitutionnel va finalement contrer Marcellin, et c'est la deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'en fait, finalement, avant cet épisode, le Conseil constitutionnel est une sorte de coquille vide et trouve son acte de naissance véritablement politique avec cet épisode en 1971.
Mais on verra par la suite de cette émission que cette protection constitutionnelle peut ne pas suffire.
Ben, tout à fait. En fait, je pense que c'est effectivement ce qu'on va voir sur l'émission, avec peut-être la distinction à faire entre la liberté d'association et les libertés associatives. C'est pas tout de créer une association, il faut pouvoir faire vivre ces associations. Et en fait, finalement, on en est à un stade où c'est tellement compliqué de faire vivre ces associations que certains renoncent même à créer une association. Donc, en quelque sorte, la loi de 1901 est battue un peu en brèche, parce que les libertés associatives sont elles-mêmes très très malmenées.
On va y revenir dans un instant, tout de suite après cette pause.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises.
L'antenne.
Où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour, robe pareille, tombant sous la...
Yves Montand, le temps des cerises. Nous abordons la deuxième partie de cette émission consacrée à un sujet auquel nous avons fait déjà allusion au cours de cette émission. C'est la fameuse loi de 2021 la loi de 2021. Loi qui... attendez, je suis un peu perdu, excusez-moi. Hein.
Non, c'est ça, c'est la loi de 2021 sur l'emprise, sur le séparatisme.
Voilà, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Deuxième partie de cette émission, nous allons évoquer la loi de 2021, promulguée le 24 août, publiée au journal officiel cette même semaine. La loi s'inscrit dans la suite du discours du président de la République prononcé lors du 150e anniversaire de la République le 4 septembre 2020 et aux Mureaux le 2 octobre 2020, le célèbre discours des Mureaux. Je me tourne vers vous maintenant, Marion Augier. Qu'y a-t-il dans cette loi ?
Cette loi, alors qui s'appelle loi confortant les principes de la République, mais qu'on connaît également sous le nom de loi séparatisme, c'est une série d'outils en particulier certains qui concernent directement les associations, et je pense notamment à trois outils. Le premier, c'est d'abord le principe de neutralité de tous les bénévoles, salariés des associations qui exécutent le service public. Ensuite, on a évidemment le contrat d'engagement républicain, auquel on reviendra probablement par la suite, qui est ce fameux contrat qui n'a d'ailleurs de contrat que le nom, et qui implique que lorsqu'on demande des financements publics, eh bien, on signe un document dans lequel on s'engage à respecter sept engagements écrits de manière assez floue, et ce qui permet donc une appréciation assez arbitraire de la part des autorités publiques sur le point de savoir si vous avez respecté ou non ce fameux contrat d'engagement républicain. Et puis, s'agissant encore des associations, il y a évidemment un dernier élément qui est les extensions des hypothèses de dissolution des associations, avec notamment le fait de... On voit désormais la violence contre les biens, concept qui interroge parce qu'il n'apparaît même pas dans le code pénal. Et là, on a depuis lors encore une vague de dissolution d'associations sur le fondement de cette fois de cette loi de 2021.
Quel est le contexte de l'adoption de cette loi, Romain Thore ? Est-ce que c'est dû, je ne sais pas moi, à l'affaire Samuel Paty, par exemple, qui a bouleversé l'opinion publique, évidemment ?
Ce genre de disposition légale est toujours prise en réaction à une actualité traumatisante, à une panique morale, à une volonté de reprendre la main de la part du politique. Effectivement, c'était concomitant avec l'assassinat de Samuel Paty, mais on constate ce type de recul très significatif. Alors pour les associations, c'est vrai, mais depuis 2015, depuis la salve d'attentat de 2015, les libertés publiques en général, sur un fond de sécuritarisme porté par une islamophobie latente des autorités, ça fait plus de 10 ans maintenant, bien ça avait commencé avant le gouvernement Macron, à chaque nouvelle occasion médiatique, à chaque nouvelle panique morale, on prend une loi. Vous notez le titre extrêmement paradoxal, comme toujours, de ces lois qui confortent les principes de la République, tout en sabotant un de ses piliers, comme l'a dit Jean-Baptiste. Voilà, la République se construit avec des piliers législatifs qui se font démonter au gré de l'actualité pour gagner quelques points de sondage. Mais c'est une vraie fuite en avant depuis plus de 10 ans maintenant.
Et qui risque de se poursuivre, on voit sans doute y revenir. Jean-Baptiste Jobard, quels sont ces fameux engagements que les associations se doivent de respecter?
Eh ben, je les ai même plus en tête parce que ils sont pas si importants que ça. En fait, c'est une demi-boutade parce que il y a des choses très, on enfonce des portes ouvertes et des choses qui tombent sous le sens sur la non-discrimination homme-femme, sur des choses comme ça. À la limite, il y en a que sept, hein, engagement dans le contrat d'engagement républicain. Le plus questionnant, c'est l'article 7. Enfin, c'est l'engagement numéro 7 sur le respect des symboles de la République. Donc y compris le drapeau et la Marseillaise. Mais en fait, le véritable problème n'est pas dans les engagements, il est plutôt dans les interlignes, dans le texte du décret qui est très court, et notamment autour de deux notions qui sont extrêmement problématiques parce qu'elles nous font basculer, je trouve, dans un nouvel ordre juridique. C'est la notion d'ordre public. Alors, c'est problématique parce que l'ordre public n'a pas de définition définie de manière stable juridiquement. Et donc, c'est pas la question qui trouble l'ordre public, c'est qui considère que l'ordre public est troublé. C'est ça, la vraie question. Et puis, le deuxième mot-clé extrêmement problématique, c'est le mot inciter, c'est-à-dire qu'une association, c'est pas simplement quand elle contrevient et quand on peut montrer que factuellement elle respecte pas ses engagements républicains, c'est quand on considère qu'elle y incite. Et donc là, on est dans un registre de jugement de l'intentionnalité qui est en fait la porte ouverte à un arbitraire extrêmement fort. Et c'est, je pense, l'expérience aussi qu'a pu faire Marion ces dernières années en ayant à traiter des dossiers qui sont complètement ubuesques en fait.
Marion Augier, justement. Quel recours a-t-on lorsqu'on est avocate de la Ligue des droits de l'homme pour contrer ces altérations de la liberté d'association ?
S'agissant par exemple du contrat d'engagement républicain, on a finalement assez peu de recours qui ont été engagés parce que c'est l'éléphant qui a accouché d'une souris. En réalité, on nous a fait tout un discours sur l'intérêt de ce fameux contrat d'engagement républicain, mais à ce stade, on n'a pas plus de 7 applications en l'espace de 5 ans, ce qui est finalement extrêmement peu, mais on fait des recours s'agissant des fois où il a été considéré que l'association avait méconnu le contrat d'engagement républicain parce qu'elle avait organisé ou participé à un atelier sur la désobéissance civile ou parce que c'est une association de théâtre d'improvisation qui fait des sketchs un peu trop subversifs. Et donc, à chaque fois qu'on a eu ce type de retrait de subvention ou de refus de subvention au nom du contrat d'engagement républicain, la Ligue des droits de l'homme a été auprès des associations pour les soutenir, notamment par des recours contentieux devant le tribunal administratif.
Boudjou Madaman.
Oui, toujours pour Marion, la question. La Ligue des droits de l'homme a été elle-même menacée par Darmanin. C'était dans le contexte de Sainte-Soline et des manifestations qui s'y déroulaient, et notamment du rôle joué par l'Observatoire des libertés de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur et où on en est? Alors, on sait que les menaces de suppression de subventions n'ont pas été effectives, mais quelles conséquences ça a eu?
C'est d'abord une conséquence symbolique. Qu'est-ce que ça signifie qu'un ministre de l'Intérieur, et puis ensuite, on parle beaucoup de M. Darmanin, mais Mme Borne a appuyé, enfoncé le clou un peu plus quelques
ancienne
jours après,
ancienne première
ministre à ce moment-là. Symboliquement, qu'est-ce que ça signifie de voir un ministre, une première ministre, demander aux élus de la République d'arrêter ou du moins de revoir le financement d'une association qui est une association quand même de 127 ans, qui est la Ligue des droits de l'homme, qui s'est créée dans le contexte dreyfusien que l'on connaît et qui est sûrement aujourd'hui presque institutionnelle dans le sens où il s'agit d'une des associations les plus importantes en France qui réunit aujourd'hui 12 000 adhérents. D'ailleurs, 12 000 adhérents, au-delà du justement le symbole de ce que ça signifie qu'un Premier ministre ou un ministre de l'Intérieur invite à remettre en cause des subventions d'une association comme celle-ci, il y a eu une réponse à cette atteinte symbolique qui est précisément une union du corps associatif, du corps militant, du corps médiatique également, qui a soutenu très clairement la Ligue des droits de l'homme. Et ça a d'ailleurs donné lieu à plus de 50% d'adhésion en l'espace de 3 mois. Donc au final, les propos de M. Darmanin montrent une chose, c'est qu'il a fait un peu plus de publicité pour la Ligue des droits de l'homme. On ne va pas l'en remercier non plus de provoquer de telles atteintes et de d'assumer et de banaliser de telles atteintes aux libertés associatives, mais il n'en reste pas moins que la réponse a été extrêmement belle, à savoir la solidarité et le soutien un peu plus aux associations face à ces atteintes.
Merci, monsieur Darmanin. Oui, je voudrais qu'on évoque avec vous, Romain Thore, la tendance à l'autocensure que cette loi pourrait encourager, parce que même s'il y a peu de dossiers qui ont été qui ont donné lieu à des affaires, ou quoi, il y a quand même la crainte qui peut pousser certains à ne pas aborder certains sujets.
De toute façon, on sait que les moyens financiers, les subventions, le fait d'être soutenu par les lois républicaines, c'est une condition indispensable d'une vie associative solide. Et quand on commence à menacer la suspension ou la suppression de ces droits, il n'y a pas tant besoin de sanctions. La menace de la sanction suffit à discipliner, autodiscipliner, censurer, peu importe les mots. Je ne suis pas moi-même responsable associatif, mais on constate évidemment que les comportements s'ajustent. Ça fait partie des sujets d'inquiétude, d'autant plus que toutes ces décisions sont beaucoup prises en préfecture, que les préfets, le corps préfectoral, il est là pour ça, pour déployer, pour faire obéir. Et c'est déjà inquiétant aujourd'hui, mais si on se projette, c'est d'autant plus inquiétant à l'avenir où rien n'est plus facile à remplacer qu'un préfet ou une préfète. Et si l'autocensure ne suffit pas, on sait que les moyens de discipline derrière sont encore plus puissants.
Jean-Baptiste Jobard, est-ce que la justice administrative est présente pour aider les associations ou pas? Ou c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas?
Alors ça, c'est une question, j'ai l'impression que Marion serait plus qualifié pour en parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression quand même que les garde-fous sont en train de tomber les uns après les autres. Et ce que dit Romain, c'est très très juste. C'est-à-dire qu'en fait, tout est déjà en place pour qu'en fait, on assiste à une bascule autoritaire encore plus violente et encore plus brutale si jamais le sort des élections nous condamnait à un scénario de catastrophe. Et c'est surtout ça, en fait, qui est inquiétant. Et ce qui est aussi inquiétant, c'est que il y a quand même toute une série de propositions qui sont portées par le monde associatif et qui sont pas du tout entendues, y compris juridiquement, pour changer un peu les choses et puis pour pouvoir protéger un peu plus efficacement les acteurs de la société civile, en fait.
Marion Augier, le juge administratif est un allié ou pas?
C'est pas évident de répondre à cette question. Bon, si on regarde les dernières décisions sur le contrat d'engagement républicain, il semblerait que ce soit un allié, puisqu'il a quasiment systématiquement fait droit aux requêtes. Mais de manière générale, je pense qu'on n'a pas vraiment encore à ce stade de réponse pour une observation assez simple, qui est que les associations se sont souvent éloignées de la justice, parce que la justice, ça coûte cher, parce que c'est énergivore, parce que c'est très long, parce que c'est très aléatoire, et que souvent, en plus, on sait très bien que les subventions, elles présentent un caractère discrétionnaire, ce qui fait que le juge n'est pas un administrateur et ne veut pas refaire le contrôle qui est celui de savoir si il fallait donner ou non une subvention. Donc c'est d'abord pour ces raisons-là que les associations se sont, on va dire, éloignées des tribunaux, mais aujourd'hui, elles ont tendance à y revenir au regard des atteintes aux libertés associatives qu'on constate de plus en plus.
Romain Thore.
Oui, juste un petit éclairage d'actualité. Le champ médiatique, il est un peu moins attaqué par les pouvoirs publics, parce que nous, pour le coup, on est dans l'autocensure, une autocensure financière, puisque la plupart des grands médias sont détenus par des individus ou des groupes qui ont intérêt à ce que les choses continuent en l'état. Mais pour autant, parmi les piliers démocratiques républicains, la presse est pas à l'abri non plus. On voit comment le service public audiovisuel, qui est un des derniers bastions, tangue en ce moment. Petite note de mini-optimisme, mais teintée de pessimisme. La semaine dernière, un de nos journalistes, Maxime Servin, qui couvre notamment les questions de défense, d'ordre public, police, etc., qui est un excellent journaliste, voulait aller couvrir le salon Eurosatory comme il le fait chaque année. Son accréditation a été refusée. Donc on a saisi les tribunaux, on a fait un référé. Alors la justice administrative au long cours, je suis pas sûr que ce soit un allié, je suis pas sûr qu'elle soit commode et elle est effectivement énergivore et pas toujours du bon côté de la barricade. En revanche, en référé, il y a encore des choses qui peuvent se faire et le refus d'accréditation qui était quand même sur la raison principale, c'était trouble potentiel à l'ordre public. Donc maintenant, le fait qu'un journaliste couvre de façon désagréable un événement soutenu par l'armement est un trouble potentiel à l'ordre public. On en est quand même arrivé là. Le juge administratif a annulé le refus d'accréditation et il a pu avoir son accréditation. Mais quand même, on en est là. C'est-à-dire que même pour le monde médiatique, ça devient compliqué.
Boudjem Manaman.
Oui, parce qu'on voit bien que, et c'est une question que je vous pose à tous les trois d'ailleurs, on voit bien que au-delà du trouble à l'ordre public, ce qui est demandé aux uns et aux autres, c'est cette fameuse neutralité. Ça veut dire quoi, être neutre quand on est un média ou une association? Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec, je dirais, le fondement même d'une association ou d'un média?
La réponse tombe sous le sens pour nous, clairement oui. En fait, juste, on peut observer que cette injonction à la neutralité, elle est ancienne, mais elle s'est intensifiée, pas n'importe quand, elle s'est intensifiée depuis l'élection de l'été 2024. Et que, en quelque sorte, ça a été ces derniers mois le moyen par lequel, c'est un jeu de mots facile, mais les pouvoirs en place ont essayé de neutraliser en fait la portée de l'action politique des associations, et je parle bien des actions politiques des associations, puisque en fait ils ont sans cesse joué avec la polysémie en fait de l'acception du mot politique, c'est-à-dire renvoyant en fait les associations vers un supposé travail partisan. Alors que, évidemment, les acteurs associatifs, avant tout, sont des intervenants dans le champ de l'action publique et des politiques publiques. Et donc, en fait, ça a été, en fait, une arme de dépolitisation qui est assez redoutable, enfin, qui a un pouvoir rhétorique assez redoutable, mais heureusement, aucun fondement juridique. Et c'est ce qui a été démontré par le dernier rapport de l'Observatoire des libertés associatives, c'est-à-dire que ce qui prévaut, c'est heureusement pour les personnes morales, la liberté d'expression en France. Et du coup, c'est important de le rappeler et de pointer qu'il y a des outils juridiques pour se défendre par rapport à cette injonction.
L'Observatoire des libertés associatives, c'est un document qui paraît chaque année, c'est ça?
Alors, c'est des parutions aléatoires, selon l'actualité. Mais là, c'est quelque chose qui est paru il y a déjà 2 mois et qu'on peut trouver assez facilement, qui est vraiment un outil d'autodéfense intellectuelle, juridique, politique.
Je voudrais qu'on évoque la situation au Proche-Orient et les prises de position que cela a suscité dans le milieu associatif. Est-ce que cette loi de 2021, a pu servir à contraindre un certain nombre d'associations de ne pas aborder ces questions. Manon Augier.
Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que dans le contrat d'engagement républicain, il y avait cette fameuse obligation de ne pas troubler gravement l'ordre public. Bon. Dans l'ordre public, il y a plusieurs choses. Il y a notamment ce qu'on appelle l'ordre public immatériel, c'est-à-dire avoir un discours qui va porter atteinte à la dignité humaine ou qui va appeler à la violence, à la haine ou à la discrimination contre des personnes. Et c'est précisément sur ce terrain-là que, au lendemain du 7 octobre 2023, des manifestations ont été interdites sur tout le territoire français, notamment à la demande de M. Darmanin qui avait invité les préfets à interdire toutes les manifestations au soutien de la cause palestinienne, au motif que, précisément, ce soutien traduisait en réalité une forme de soutien à l'action du Hamas. Et on a même des arrêtés où il est écrit que le soutien à la cause palestinienne est en soi contraire à la dignité humaine. C'est un arrêté du préfet de la Nièvre, dont on a obtenu l'annulation, évidemment. Mais il n'en reste pas moins que, finalement, le trouble à l'ordre public est aujourd'hui instrumentalisé pour faire taire des discours, des appels à la paix, des appels à dénoncer un génocide en cours, précisément parce que la parole en soi va créer un trouble à leur public dans un contexte, à chaque fois il est dit, dans un contexte extrêmement sensible, ce type de prise de parole est de nature à troubler l'ordre public. Et donc, en effet, on utilise le contrat d'engagement républicain, l'ordre public, pour faire taire des expressions liées à la politique internationale.
Vous dites, madame Anne.
Il y a deux exemples récents sur lesquels, effectivement, je souhaiterais que vous réagissiez. Le maire de Saint-Denis, M. Bagayoko, qui a considéré que siffler la Marseillaise n'était pas en soi un délit. Alors, il est maire, donc on a vu les réactions que ça a provoquées. Si ça avait été une association, que se serait-il passé si ça avait été un représentant d'association qui était intervenu de cette manière-là? Et plus récemment encore, le concert a été interdit, donc le concert antiraciste prévu place de la République, qui était interdit donc dans un premier temps par la préfecture et qui ensuite, bon, grâce à effectivement une action référée, a pu être rétablie. Dans ces deux cas-là, on voit que ça concerne un parti politique en l'occurrence. Si ça avait été à l'initiative d'association, quelles auraient pu être les conséquences de ce genre de situation?
Alors justement, sur la question de la Marseillaise, est clairement prévu dans le contrat d'engagement républicain le fait que l'hymne français est l'un des symboles de la République auquel on doit rester attaché, qu'on ne peut pas atteindre. Donc clairement, le fait pour des représentants d'une association, leurs bénévoles, leurs membres, à l'occasion d'une activité de l'association, de siffler la Marseillaise pourrait être regardé comme une méconnaissance du contrat d'engagement républicain. S'agissant du concert antiraciste, dont finalement on sait que, pour avoir été à l'audience, je peux vous dire que finalement, en fait, je peine toujours à comprendre où était le trouble à l'ordre public dans ce dossier. Concrètement, ce qu'il a été dit, c'était qu'une manifestation antiraciste allait générer, notamment en particulier en raison des personnes qui étaient présentes, des discours hostiles aux forces de l'ordre. Et que c'est cette construction de discours hostiles aux forces de l'ordre qui conduisait à considérer que ce risque de discours hostiles aux forces de l'ordre aurait vocation à être réitéré lors du concert qui était organisé place de la République. Bon, c'est assez délicat de répondre parce qu'en fait, vous voyez que tout ça, c'est une construction du trouble à l'ordre public qui, à quel moment est-ce qu'une une marche antiraciste donne lieu à des troubles à l'ordre public parce qu'elle appelle à la haine contre les forces de l'ordre. Donc on voit qu'en fait on tire un peu plus le fil à chaque fois pour identifier des risques qui sont parfaitement hypothétiques, parfaitement construits de manière gratuite et volontaire pour là cette fois bâillonner la France Insoumise qui était l'organisateur du concert. Et demain ce sera évidemment pour une association quelconque.
Face à ces notions assez vagues qui sont susceptibles de toutes les interprétations, quels sont les recours des associations, Jean-Baptiste Jouba? Qu'est-ce qu'on peut faire? On est désarmé face à ça?
Ah non, heureusement on n'est pas désarmé. D'abord, faut les faire connaître. C'est vraiment basique, mais l'Observatoire Liberté Associative sert à ça, sert à pouvoir documenter ça, et puis surtout à ne pas laisser les associations démunies et permettre en fait de construire des stratégies de réponse face à ces différentes attaques. Riposte qui passe par l'organisation interne d'une association, parce qu'on le sait très bien, on l'a vécu plein de fois, c'est extrêmement déstabilisant d'être attaqué comme ça, y compris quand il y a une grande part d'arbitraire et de violence institutionnelle en fait dans ces attaques. Alors il y a évidemment tout un aspect sur le volet juridique, c'est-à-dire que ça passe par la compréhension assez fine en fait de la manière dont l'attaque est étayée juridiquement pour pouvoir trouver les failles juridiques, mais ça Marion est assez spécialiste de la question. Et puis il peut y avoir, et là je m'adresse à Romain en tant que représentant d'un médias, le support de paroles médiatiques, étant donné que ce qu'on a quand même noté, c'est que ça pouvait être à double tranchant, c'est-à-dire qu'on a vu aussi certains cas où cette publicisation d'affaires se retournait contre l'association, et donc c'est aussi quelque chose qu'il faut manœuvrer avec avec certaines précautions. Et le dernier point, c'est évidemment arriver à travers tout ça à construire une solidarité interassociative et que chacun comprenne qu'une association attaquée, c'est l'ensemble des libertés associatives qui est attaquée et que c'est donc en fait une partie des libertés démocratiques.
Romain Thor, journal politique, je le rappelle, est-ce que les médias en font assez pour protéger, aider les associations?
Le problème, c'est qu'il y a des médias qui en font trop pour porter aussi haut les sujets qui nuisent à tout. Ça fait quand même 10 minutes autour de la table qu'on est en train de dire « Bon, est-ce qu'il faut chanter la Marseillaise ? Est-ce que je suis assez républicain ? Et si on chante faux la Marseillaise, est-ce qu'on est un demi-citoyen ?» On en est à une ambiance médiatique et politique dominante qui fait qu'on est tous en train de perdre un temps infini à se poser ces questions. Donc oui, il y a une partie de la presse qui fait son travail, évidemment. Il y a une partie des médias qui font un travail exemplaire de documentation, d'information, de dénonciation, de mobilisation.
Mais pas toute la presse.
Mais tout ça à contre-courant de médias à très forte audience qui, c'est pas qu'ils font pas leur travail, ils font extrêmement bien leur travail. C'est-à-dire, leur travail, c'est de mettre de l'huile sur le feu en permanence. Et soutenez les médias indépendants parce qu'il n'y en a pas 36 000 qui travaillent. Ouais. Mais c'est ça la difficulté. Mais c'est la même chose pour un responsable, une responsable associative. C'est d'avancer à contre-courant. On essaye de faire bien et on avance à contre-courant d'institutions politiques, administratives ou médiatiques qui devraient, dans un monde normal, nous aider, mais qui en fait nous mettent des bâtons dans les roues autant qu'ils et elles peuvent.
Voilà ce que nous pouvions dire sur cette loi du 24 août 2021, loi confortant le respect des principes de la République. La suite dans un instant.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin. Je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Je suis tous ces enfants que la mer a pris. Je vivrai sans bilan. Je m'appelle.
Merci par le groupe Madame, Monsieur, un hommage aux associations qui aident les malheureux migrants qui tentent la traversée de la Méditerranée. Nous allons évoquer un troisième sujet. Après la loi séparatisme, voici maintenant la loi séparatisme bis, une proposition de loi visant à lutter contre l'entrisme en France. A été déposé au Sénat le 16 mars 2026 par l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et plusieurs sénateurs de son groupe. Elle a été adoptée par le Sénat le 5 mai 2026. Une autre loi parallèle, une deuxième version de cette loi, a été rédigée par le gouvernement. On s'y perd un peu, mais bref, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? C'est la question que je vous pose à tous les trois. Et en particulier à Manon Augier de la Ligue des droits de l'homme.
À Alors, dans cette loi, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est un peu une liste à la Prévert de plein de dispositifs. Évidemment, on tape sur les associations en premier lieu, puisqu'on a une nouvelle hypothèse de dissolution des associations qui serait à l'origine d'entrisme. Même si je ne sais pas si on doit vraiment banaliser ce mot, parce que c'est rentré dans notre vocabulaire, alors que ça ne devrait pas y être. On a évidemment des nouveaux délits pénaux, qui sont inscrits dans le code pénal. On a beaucoup de matières fiscales avec des associations qui demain pourraient voir des gels d'avoir, mais même des personnes physiques qui sont concernées sur des hypothèses qui sont extrêmement larges. De manière générale, on consacre cette notion d'entrisme dont on adopte une définition, puisque jusqu'ici on n'avait pas vraiment d'idée sur ce que c'était que l'entrisme. On parlait beaucoup de communautarisme ou de séparatisme, à savoir on se met à l'écart de la société pour des questions religieuse. Et là, maintenant, c'est quand on veut s'intégrer dans la société en conservant son identité religieuse qu'on fait de l'entrisme. Donc, en fait, à partir du moment où on veut, où on a une identité religieuse, on est soit communautariste, soit séparatiste, soit entriste. Donc, il ne faut plus de religion pour pouvoir être dans aucune des cases, ce qui est quand même un peu attentatoire à un principe constitutionnel qui est quand même la liberté de conscience. Donc, on a cette définition qui apparaît, qui est extrêmement large, qui consiste à, alors j'ai plus non plus la définition par cœur dans la bouche, mais concrètement c'est le fait d'œuvrer par tout moyen. Alors quand on rajoute des par tout moyen, on voit bien qu'on élargit à souhait le champ des possibles. Donc le fait d'œuvrer par tout moyen de manière concertée au sein d'un organisme pour conduire cet organisme à prendre des décisions ou à adopter des pratiques contraires aux lois de la République. Concrètement, on n'y comprend rien, en fait. Moi, cette définition, je suis juriste, c'est le flou le plus total. Comme disent certains, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. En effet, là, on ouvre quelque chose qui, j'espère, ne passera pas le stade du Conseil constitutionnel, parce que concrètement, on peut tout y mettre.
Jean-Baptiste Jobin.
Oui, en fait, moi, je trouve, c'est un peu ce que disait Romain tout à l'heure. Dans cette loi, il y a tous les ingrédients pour se prendre la tête à partir de notions complètement floues qui permettent l'arbitraire le plus complet et en fait brouiller encore plus en fait la façon dont les actions qui sont des actions normales, historiques des associations peuvent être demain sanctionnées, contrôlées davantage. Et il y a quand même un truc, c'est assez hallucinant de voir jusqu'à quel point ce projet de loi va, puisque ça va jusqu'à remettre en cause, en gros, le principe aussi constitutionnel dans l'article 72 de libre administration des collectivités territoriales. Et du coup, c'est vraiment... c'est assez stupéfiant de voir jusqu'où le bouchon est poussé et de voir finalement... quelle va être la stratégie, puisque évidemment je vois pas comment ça pourrait ne pas être toqué par le Conseil constitutionnel, mais en même temps on a l'impression qu'il s'agit toujours de la même tactique d'ouvrir des fenêtres d'Overton constitutionnelles en fait, juridiques, et de préparer en fait le terrain à quelque chose qui, si c'est pas le pire, est de façon très très proche du pire auquel on est malgré tout content d'échapper quand le Conseil constitutionnel censure. Donc c'est une stratégie qui est quand même bien rodée et qui est assez redoutablement efficace quand même, et qui nous empêche, je trouve que c'est ça quand même le fond de cette affaire, qui nous empêche de travailler justement sur tout ce que porte l'action associative dans la construction d'une société souhaitable. Et je trouve que tout ça nous fait perdre quand même un temps fou, et je le dis d'autant plus qu'on est en période de canicule, on a très chaud dans ce studio, mais il serait temps qu'on libère un peu les initiatives citoyennes pour faire face aux défis écologiques et sociaux qu'on a en face de nous, plutôt que de les brimer, parce qu'on est mal parti.
L'entrisme dont on parle, enfin dont parle le projet de loi, c'est l'entrisme islamique, ce n'est pas dit, mais c'est ce qui est en filigrane, non ?
Bah oui, complètement, mais c'est toujours le même schéma. C'est exactement cette rhétorique qui était utilisée en 2020-2021 au moment de la construction de la loi séparatisme, et on voit bien en fait que les affaires qui sont traitées, ça concerne les associations écologistes, sociales, culturelles, etc., et que de toute façon la cible c'est la capacité d'organisation de la société civile à partir du moment où elle n'est pas alignée politiquement avec le pouvoir qui est de plus en plus autoritaire.
Et pour les associations culturelles, justement, est-ce qu'il y a des choses précises dans cette dans ce projet de loi, cette proposition-là, plus exactement.
Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais je les invite à regarder de près et à ce qu'on en parle rapidement ensemble, parce que je pense que de toute façon, c'est toujours un petit peu pareil, en fait. Ce qui est remis en cause, c'est à la fois la loi de 1900 et la loi de 1905 dans le même packaging. Et donc ça passe souvent par la bande, et encore une fois le diable est souvent dans les détails rédactionnels, et je pense que ça serait intéressant qu'on regarde d'un peu plus près. Après, le truc, c'est que le projet de loi du gouvernement, il est encore sous le sceau du secret. Le HCVA, le Haut Conseil à la vie associative, en a eu quelques articles, mais on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a dedans, et c'est aussi la difficulté de construire une riposte quand on ne sait pas exactement ce qui va nous tomber sur le coin de la tête.
Alors, on verra ça dans le détail, dans les jours et les semaines qui viennent. C'est un projet qui devrait être proposé à l'assentiment et à l'approbation des parlementaires cet été, n'est-ce pas ?
Bah, a priori, c'est très flou sur le calendrier, mais le gouvernement, enfin tous les gouvernements fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'au moment où il y a une période de creux, ils en profitent pour faire passer le pire. Donc je pense qu'il faut qu'on construise quand même une vigilance collective au cœur de l'été, parce que le risque n'est pas nul.
Je voudrais qu'on envisage tous les trois la perspective d'une utilisation de tout cet arsenal juridique par un gouvernement qui serait encore moins, enclin à respecter les droits de l'homme. C'est une hypothèse à laquelle il faut penser.
D'extrême droite,
pour ne pas le citer, mais Boudjé Madaman a raison de le faire. Romain Thor.
Ce sera évidemment pire, mais on vient de faire un panorama qui est déjà salé. L'extrême droite, c'est toujours pire que ce qu'il y a aujourd'hui. Je ne sais pas répondre à cette question. Il y a évidemment une partie de la population qui va être encore plus ciblée, encore plus maltraitée, encore plus fragilisée, encore plus menacée, évidemment. Mais finalement, au nom de quoi et pourquoi ces lois liberticides, ça fait 10 ans, 15 ans, Jean-Baptiste évoquait l'écologie il y a deux secondes, depuis le 2022, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la 5e République qu'on prend des dispositions écologiques de recul. Avant, ça avançait pas assez vite, là. Depuis 4 ans, on recule. On vit dans une société qui prépare le terrain à l'extrême droite, mais qui pourtant, au fil de ces lois, puis là on évoque les grandes lois, mais tous les jours il y a des arrêtés préfectoraux, il faudrait faire un recueil des arrêtés préfectoraux complètement dingues. Maintenant, tu en citais quelques-uns tout à l'heure. C'est un festival depuis 10 ans. Est-ce qu'on a le sentiment que la société française est plus heureuse, que l'économie se porte mieux, que l'écologie est traitée, que... Non, à la fois, je suis évidemment, comme beaucoup de gens, très pessimiste. Qu'est-ce qui va se passer quand l'extrême droite va prendre cet arsenal et va l'utiliser? Mais je me dis que si l'arsenal n'existerait pas, elle aurait bien su se le construire elle-même. Et des lois qui n'auraient pas été prises, elle les aurait prises elle-même. Mais je me dis juste... Est-ce qu'on peut aller encore beaucoup plus loin que la société dans laquelle on vit aujourd'hui ? Les étapes d'après, elles sont vraiment très 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 compliquées. Les résistances associatives, elles faiblissent pas. Les résistances citoyennes, elles faiblissent pas. Alors, on n'est pas majoritaire, mais on est très loin d'avoir abdiqué. Et ce sera encore moins le cas si le pire arrive. Et donc, je me dis, en fait, oui, ce sera pire, mais... Finalement, il y aura peut-être aussi en face des résistances plus grandes, un ras-le-bol aussi de celles et ceux qui n'en peuvent plus. Et je trouve qu'on est déjà allé tellement loin pour si peu de résultats. Les lois sur la nationalité, les lois sur l'immigration, ça fait 10 ans, 15 ans quand même que ça s'empile. On ne peut pas dire que c'est un gouvernement d'extrême droite, mais on a le droit de le chuchoter. Parce que la différence, elle est vraiment de degré, elle n'est pas de nature là. Et au final... est-ce qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça ? J'espère pas.
Manon Augier, il y a pourtant une constitution, il y a pourtant ce qu'on appelle, vous allez nous l'expliquer, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité qui recèle toutes les protections constitutionnelles. Ça devrait nous empêcher d'être inquiets, et pourtant, nous le sommes. Alors.
À bon droit, quand nous sommes inquiets. Hein. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit... On a en fait, comme tu le disais, dégradé un peu plus l'état du droit qui préservait nos libertés. On a autoriser des atteintes de plus en plus larges. Là, aujourd'hui, l'extrême droite peut venir au pouvoir très tranquillement. Il n'y a pas besoin de prendre des lois. Par exemple, sur le contrat d'engagement républicain, un simple décret permettra d'étendre un peu plus encore les engagements auxquels seraient soumis les associations. C'est assez impressionnant de voir qu'au moment où l'extrême droite est à notre porte, où notre gouvernement le sait pertinemment, eh bien, pour autant, il continue cette logique de déconstruction de l'état de droit, d'assumer des méconnaissances volontaires de l'état de droit. Et je repense notamment à M. Retailleau qui avait dit que l'état de droit n'était pas intangible ni sacré, mais aussi à M. Darmanin qui, s'agissant par exemple d'un ressortissant ouzbek pour lequel le Conseil d'État avait dit qu'il devait être maintenu sur le territoire français, M. Darmanin a dit que clairement les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Conseil d'État, eh bien, il n'en ferait pas son affaire parce que l'important était la sécurité des Français. Donc face à la menace imminente de l'extrême droite, on a un gouvernement qui finalement démantèle un peu plus nos libertés et normalise les atteintes à l'état de droit, et je pense que sa responsabilité sera vraiment entière compte tenu de ce qui pourrait nous arriver demain. Mais soyons quand même optimistes, on a en effet un état de droit qui est notre socle, qui fait qu'on a une justice pour le moment qui n'a pas basculé, dans laquelle moi j'ai confiance en tant qu'avocate, et puis on a surtout encore un peu de temps avant un vote, et il suffit de s'organiser, on est au pied du mur, organisons-nous, on a encore quelques mois.
Il y a une campagne à mener sans doute. Boudjima Daman, une question sur nos inquiétudes, sans doute.
Alors, bon, des inquiétudes on en a, mais comme je le faisais remarquer tout à l'heure en off, il n'est pas nécessaire de plomber davantage l'atmosphère. Donc, ce que je constate, c'est qu'il y a cette politique qu'on pourrait décrire comme celle de la grenouille qu'on a plongée dans de l'eau froide et on allume ensuite la casserole pour qu'au fur et à mesure que la chaleur monte, la grenouille s'habitue. Il y a cette politique qui est menée par ce gouvernement, incontestablement, concernant les libertés individuelles et collectives. Et il y a une multitude d'initiatives, de résistances associatives, médiatiques. On y faisait écho tout à l'heure, et ça nous amènera d'ailleurs à notre troisième partie, qui montre qu'il y a une société civile, une société citoyenne qui se mobilise. Et de ce point de vue-là, la question serait plutôt que se passe-t-il à chacun de vos niveaux, que ce soit le CAC, que ce soit la LDH ou que ce soit Politis.
Ben, au niveau du CAC, oui, ce qu'on essaye de faire, c'est de perpétuer finalement un mouvement très très fort qui a eu lieu dans l'urgence, donc à l'été 2024, qui était la manière dont les acteurs de la société civile ont réussi à faire front ensemble, forces syndicales, associatives, etc., avec les partis politiques, pour éviter le pire à ce moment-là. Sauf que la question, c'est savoir comment est-ce qu'on utilise cette période en fait, de répit qui nous a été donnée pour structurer mieux, j'ai l'impression, la capacité à faire entendre aux partis politiques pris dans un jeu institutionnel qui est celui de la Ve République, qui n'est pas du tout favorable en fait, à des transformations systémiques, la part des enseignements des acteurs de terrain qui pourraient servir à alimenter des politiques publiques réellement alternatives. Et donc ça, c'est tout l'enjeu. Et ça pose en creux la question de l'articulation entre le travail de ces acteurs associatifs, de ces acteurs de la société civile de manière générale, et la façon dont ce travail peut avoir des chambres d'écho, et donc le lien avec un certain nombre de médias indépendants qui, je pense, ont bien conscience de cette problématique et qui revoient leur organisation en conséquence.
Romain Thorz, prêt pour cette bataille
je prends la balle de Jean-Baptiste Aubon. Effectivement, chez Politis, on prépare la couverture de l'échéance présidentielle qui arrive, et puis plus largement l'avenir de comment on traite tout ça. Et le Politis est devenu une coopérative il y a un an et demi. Coopérative, pas une SCOP, une SIC pour celles et ceux qui connaissent les détails. Et donc on n'a pas que nos salariés qui sont sociétaires, on a aussi nos lecteurs, lectrices, et puis on a aussi une trentaine d'associations, ONG, autres coopératives qui sont membres de notre collège des partenaires. Et donc au bout de quelques mois de vie coopérative, ça nous a donné l'envie d'aller encore plus loin et donc d'assumer pleinement notre place de médias inscrits dans l'économie sociale et solidaire en ouvrant notre conférence de rédaction à partir de la rentrée aux assos, aux ONG et à la société civile engagée au sens large. En partant de nos sociétaires qui sont les plus proches, mais c'est évidemment pas un club fermé. Et l'idée, c'est que chaque mois, on réunisse des représentants d'associations, d'ONG, pour décider avec elles et eux la priorité de l'agenda médiatique des semaines à venir pour pouvoir contribuer à notre échelle de médias indépendants à la bataille culturelle, à la bataille des idées et à la bataille tout court en organisant mieux la médiatisation des combats associatifs.
Et vous allez mener la bataille aussi sur le plan numérique
Oui, alors pour ça, on va ouvrir une rubrique société civile. Ce sera peut-être un peu plus sexy que ça comme nom, mais l'idée, c'est de déployer dans notre magazine papier comme on le fait d'habitude, évidemment aussi sur politis.fr, sur le site internet. Mais on a aussi très envie de monter un studio vidéo pour pouvoir couvrir en vidéo. On sait qu'il y a toute une partie, c'est pas que générationnel, mais il y a en tout cas toute une partie de gens qui ne lisent pas ou peu ou plus, et pour qui les médias vidéo ou audio sont essentiels. Et donc pour soutenir tous ces projets, on lance un abonnement à 1 euro par mois pour l'abonnement numérique de Politis, et on espère avoir suffisamment d'abonnés pour embaucher 5 journalistes et monter donc un studio vidéo pour proposer un rendez-vous quotidien en vidéo pour s'armer dans les mois qui viennent.
On suivra tout cela avec intérêt. Manon Augier, la Ligue des droits de l'homme, quel est le plan de bataille pour la saison 26-27 dans la perspective des élections, de l'élection présidentielle et des législatives qui vont suivre, probablement?
Depuis son congrès qui a eu lieu il y a un mois, la Ligue des droits de l'homme, qui s'appelle également Ligue des droits humains désormais, chose à noter parce qu'il a fallu, le combat a été long et difficile. Donc la Ligue des droits de l'homme, Ligue des droits humains, a adopté une résolution qui s'intitule « Contre la loi du plus fort, choisissons l'état de droit » ou quelque chose comme ça, je le dis de manière un peu approximative, qui revient sur ce qu'on disait à l'instant, sur cette question de notre bouclier juridique, hein, qui est l'état de droit, qui permet le respect des droits et libertés qui sont consacrés pour chacun et chacune, en particulier pour les plus vulnérables. Et dans le cadre de cette résolution, la Ligue appelle de manière générale à toutes les forces progressistes, y compris libérales, ce qui est quand même assez notable, à s'unir en prenant évidemment, à s'unir dans les urnes pour permettre le maintien de l'état de droit en dépit des divergences. On est vraiment sur une résolution de l'union, tous les camps progressistes, quels qu'ils soient, doivent s'allier ensemble parce que c'est aujourd'hui notre seule boussole, c'est le maintien de l'état de droit. Alors évidemment, avec toujours la construction d'une alternative écologique, sociale, démocratique, c'est évident. Mais c'est vrai que cette résolution signe vraiment un appel d'urgence à l'union des forces progressistes dans ce pays.
Et dans ce contexte de budget madaman, Fréquence Droit sera également présent. De notre émission à partir de septembre prochain.
Et la d'ailleurs été dans le cadre des précédentes municipales, puisque nous avons effectivement donné la parole au mouvement citoyen qui s'est mobilisé pour faire en sorte qu'un certain nombre de villes résistent à la pression justement des forces d'extrême droite et de droite extrême. Jean-Baptiste, tu as été l'un de nos invités en particulier. Brillant, comme d'habitude, mais on recommencera effectivement, on continuera en septembre dans le cadre de Fréquence Droit.
Fréquence Droit qui est terminée pour aujourd'hui. Je remercie Marion Augier, avocate et membre de la Ligue des droits de l'homme, Romain Thor du journal Politis et Jean-Baptiste Jobard, coordinateur du collectif des associations citoyennes, le CAC. Merci également à Boudjema Daman qui m'a accompagné pour cette émission, la dernière de la saison 25-26.
Et merci à Claude Cyril qui a animé cette émission, comme d'habitude, comme les précédentes et comme les futures.
Merci, bonne soirée à tous.